C'était une sorte d'île située entre la mer et les Tonto.
La commune, qui était une commune portuaire, ouvrière, a pris des couleurs absolument magnifiques.
Parce qu'ici, il n'y a pas que Brassens qui chante. Tous les Sétois chantent.
Et non seulement vous découvrez les œuvres, mais vous découvrez la ville avec son histoire, avec ses quartiers, avec ses habitants.
Témoignage d'un certain art de vivre.
Des amitiés solides, des amitiés fortes.
C'est vraiment un endroit où il faut aller.
Racontez-nous votre recette.
On y va ?
Allez,
on y va.
Thérèse Matera, bonjour.
Bonjour.
Avec Racontez-nous votre recette, je vous propose un entretien convivial pour notre plaisir à tous les deux et surtout, nous l'espérons, pour celui des auditeurs de Divergence. Marie-Thérèse, vous êtes arrivée très jeune à Sète, rapatriée d'Algérie. Oui. Vous avez immédiatement, si j'ai bien compris, aimé la mer, le ciel, la colline et une terre qui ressemblait à celle de votre naissance. Et puis, l'entraide et enfin, la mixité des populations. 50 ans plus tard, est-ce toujours de même ?
Non. La population de Sète a beaucoup changé, avec des nouveaux migrants riches, ce qui n'était pas du tout le cas au moment de la migration des Italiens et des Espagnols. Voilà. Et du coup, ces gens qui ont plus de moyens, parce que le foncier a beaucoup augmenté à Sète. Dans la mesure où il n'y a plus d'activité économique en dehors de la pêche, mais qui est entre les mains d'une toute petite, je ne vais pas dire le mot mafia, mais allez, d'un petit groupe d'entre-soi de la pêche, mais qui ont fait fortune grâce aux subventions de l'Europe pour transformer leurs gros thoniers tout en respectant les quotas, ou voilà, d'un sens comme dans l'autre. La possibilité d'habiter à Sète pour les gens qui ont peu de moyens n'est plus possible. Donc, ils s'expatrient autour de Sète, dans les petits villages. Et le foncier ayant monté, on ne peut accueillir à Sète que des gens qui ont plus de moyens. Déjà intéressants parmi ces gens-là, c'est évident. Mais voilà, la mixité sociale que moi j'ai connue à l'école primaire, il me semble qu'elle a beaucoup moins lieu. Voilà. Elle n'a plus la possibilité de se rencontrer. C'est-à-dire que les quartiers qui se rencontraient, puisque le moment où j'ai vécu, c'était le quartier haut. Moi, j'habitais juste à la lisière, entre le bas de la colline de Saint-Clair, qui n'était pas Saint-Clair, et le quartier Nau. C'était le quartier haut des Italiens. Mais l'école primaire a permis ce mélange entre... Et j'avais mis, entre guillemets, la grande bourgeoisie laïque de Sète. Parce que l'autre... aller évidemment à l'école religieuse, c'est-à-dire le Saint-Vincent, ouais. Saint-Joseph, tout ouais. ça. Et là, cette bourgeoisie laïque se mêlait, même si après on ne se retrouvait pas le week-end pour les sorties. Mais tout au long de la semaine, oui, on s'est mélangé.
Mais alors, ça s'est fait pourquoi ? C'est parce que les activités de Sète, les gens travaillant à Sète ont été moins nombreux ?
L'activité économique de Sète actuellement, c'est principalement le tourisme. Et donc, l'activité autour des festivals et autour de la grande émission de télévision, Demain nous appartient, qui attire les foules.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Il paraît que Sète est attractif à cause de ça, mais vous croyez ça vraiment ou c'est du baratin ?
Ah non, je pense, puisque moi j'habite en plein centre-ville, je pense qu'il y a beaucoup de tourisme qui est lié à l'émission de... Je dirais la population, la population moyenne, c'est-à-dire les revenus moyens qui regardent la télé et qui mettent en valeur justement le côté un peu traditionnel, populaire de Sète, mais qui est quand même pas mal carte postale maintenant, en réalité, non, mais qui continue à être entretenu par certains médias, attire cette population, mais qui ne fait que passer.
Oui.
Les gens qui restent sont des gens qui ont les moyens. qui viennent d'autres grandes métropoles, voilà, et qui, à la retraite, ben, envie de descendre, la douceur de vivre, le soleil, ouais, tout ça, ouais. Et ben, on a les moyens de se ouais. payer maintenant le foncier
c'est,
à 7.
C'est marrant parce que c'est une chose que je ne comprenais pas et que j'ai découvert. Il y a des gros bateaux qui déversent leur cargaison de touristes, etc. Et je me disais, mais pourquoi ? Et on m'a dit un jour, mais Yves, Saintes est le deuxième port de France sur la Méditerranée. Donc les gens, les bateaux viennent faire escale ici pour que les gens aient accès à Carcassonne, Narbonne, Toulouse, etc. Donc, en fait, ce que vous me dites, c'est que progressivement, cette espèce de mixité sociale qui fait que vous avez retrouvé l'entraide, la solidarité mmh. de ce que vous connaissiez jeune en Algérie et qui mmh. existait, c'est peu à peu effacé.
Oui.
Voilà. Ce qui fait d'ailleurs que le mont Saint-Clair aujourd'hui est pour moi devenu, mais pas que pour moi, c'est des grandes maisons, des piscines, mmh. des, voilà. c'est pas n'importe quoi.
Mais c'est pour ça que dans mon, le petit mot que j'ai mis au début était la géographie.
C'est ça.
Eh ben, la géographie, c'est les baraquettes à Saint-Clair,
ben oui.
des maraîchers, des
oui,
petits...
C'est
de...
ça.
Et puis au fur et à mesure, ben, les maraîchers...
C'est ça, parce que j'ai reçu quelqu'un qui connaît bien Sète et qui a passé beaucoup, beaucoup de temps depuis sa jeunesse et qui me disait, mais Yves, à l'origine, Saint-Clair, il n'y avait pas d'arbres, c'était des murs, etc. Mmh. Les gens avaient des baraquettes, ils venaient pique-niquer,
c'est
etc.
Ça.
Et, ça n'est que, et les gens disaient... il ne faut pas que ça se dise, parce que le jour où le tourisme va attraper Saint-Clair, on sera fichu. Et finalement, ils n'avaient pas totalement tort. Mais est-ce qu'il reste quand même un peu, Marie-Thérèse, de cette époque ?
Alors, la chance de Sète, c'est que pendant un grand moment quand même, c'est le paradoxe de Sète, a été dirigée quand même par une mairie communiste.
Oui.
Donc, qui facilitait, c'était ben, autour des années 80, hein,
oui.
Voilà, qui facilitait ben, enfin, les savoirs, justement, cette mixité et tout ça. Et c'est je dis paradoxal, quand la France a choisi un président à gauche,
oui.
Eh ben,
c'était passé à droite.
Passé à droite.
C'est étrange.
C'est étrange. C'est étrange, oui, oui.
Et oui, parce que moi, j'ai été surpris parce que j'avais toujours entendu dire « je ne suis pas du tout sétois d'origine, j'ai choisi de venir finir ma vie à Sète, mais bon, c'est une autre histoire ». Et j'étais persuadé que j'arrivais dans une ville communiste. Et j'ai été extrêmement surpris de découvrir que non seulement elle n'était pas communiste, mais en plus qu'elle était très bizarrement administrée. Mais ça, c'est une autre affaire. Ceci étant... la trace du Parti communiste reste forte parce que c'est un port quand même. Est-ce que ça tient au port ou pas, cette
non.
tradition
ben, ça tient... je ne vais pas faire la comparaison avec les survivants d'Auschwitz, mais quand les grands-pères communistes disparaîtront, je ne sais pas si...
Ah oui,
d'accord. Oui. Mais c'est... Moi, je dis que c'est le rêve qui entretient l'espoir et l'utopie
oui,
et tout ça.
Oui.
Parce que quand vous dites l'activité portuaire, mais ce qui faisait la richesse de Sète, c'était ville portuaire et pas ville nautique.
C'est
alors
ça.
Que c'est en train de se transformer en ville
ça.
Nautique,
c'est
c'est-à-dire pour les petits bateaux. La région gagne son argent en faisant un servant de parking
oui.
aux riches qui ont des bateaux,
qui ont des
mais ce n'est pas du tout
oui,
aux habitants
oui,
de Sète.
Oui.
Alors qu'auparavant, si vous voulez, Sète avait cette capacité d'activité portuaire, mais donc du coup... de travail, c'est-à-dire les dockers, le charbon, je veux dire, le blé,
ça,
les échanges
c'est...
avec le Maghreb. Mais maintenant, c'est les
mais
échanges.
Mais ça, c'était, c'est donc, il y a, on va dire, 50 ans, c'est ça qui a composé la relation avec le Parti communiste.
Mais donc, les du coup, ça faisait une activité ouvrière.
Oui.
Il fallait défendre les ouvriers.
D'accord.
Quand il n'y a plus d'ouvriers... Ben, je veux dire, c'est moins facile. De...
Ouais, et moi, j'étais resté un peu naïf parce que j'avais découvert que le président, le responsable du port de Sète, était un ancien ministre communiste.
Oui.
Il est mort il n'y a pas longtemps, je
ça,
crois.
Ça, c'était, oui, à l'époque de Frèche.
C'est ça.
C'est ça. Mais du coup, ben, Frèche a soutenu un certain temps ben, Liberty, qui est,
oui.
voilà, donc les candidatures de Liberty. Et après, ben, s'est rendu compte... finalement, qui pouvait aussi bien s'arranger avec Comen.
Ben oui.
Eh ben oui.
Comen, c'est le maire actuel.
C'est le maire,
bon.
De, voilà, depuis 2001.
D'accord,
voilà.
On reviendra peut-être sur ce monsieur tout à l'heure. Voilà, donc en fait, c'était... Parce que c'était quand même... c'est marrant parce que quand vous parlez de Sète en relation avec votre côté pied noir, à chaque fois que j'entends ce genre de... Je me dis, mais quelle catastrophe qu'on n'ait pas, nous, la France, réussi à garder avec la totalité du Maghreb de bonnes relations. Si on les avait respectées, acceptées, c'est ça, on aurait un destin différent, parce qu'on a une communauté qui, en plus, aujourd'hui, est pervertie par cette histoire d'islam qui nous casse les pieds. Enfin, bon, voilà. Marie-Thérèse, je vais vous poser quelques petites questions. Si Sète était un cadeau, ça serait quoi ?
Un tableau.
Un tableau ? Quel tableau ?
Alors, je crois que j'ai... les tableaux que j'ai chez moi sont des tableaux qui ont été peints par le nounou de mes enfants,
ouais,
qui est un Hollandais,
d'accord,
qui est venu à Sète.
D'accord, peu importe. C'est des tableaux que
oui,
vous aimez.
Des marines, c'est des marines. Des marines. Des marines.
D'accord. Si c'était une boisson.
Je veux dire, l'eau fraîche.
De l'eau fraîche, très bien. Un spectacle.
Alors, franchement, un spectacle au Théâtre de la Mer, ah, avec les mouettes,
d'accord,
là, dans le ciel, franchement.
Ouais, d'accord, avec le les coup. Gabions qui passent.
Voilà.
D'accord. Oui. Si c'était une fleur.
Ah. Alors, franchement, j'ai appris à ne planter, à ne faire pousser maintenant sur mon balcon que des plantes grasses. Et donc même des cactus,
d'accord,
c'est pour ça que je vous dis, voilà. D'accord. Puisque j'ai un cactus qui donne une seule fleur, une fois par an,
ah,
qui tient 24 à 48 heures.
Ah.
Voilà, et qui, donc toutes ces plantes-là ne nécessitent pas
bon,
beaucoup d'eau.
Il ne faut pas
voilà
le rater.
Ah là, je prends, je prends des photos.
Et donc, et si c'était une musique aussi.
Ah, petite musique. Alors ça serait... une musique brésilienne, et surtout pas la petite musique de la fanfare, des joutes et tout.
D'accord.
Ça.
D'accord, et vous avez une préférence pour la musique brésilienne ?
J'aime beaucoup Caetano Veloso.
Caetano Veloso. Et pourquoi le Brésil ? C'est loin de vos racines.
C'est loin de mes racines. Alors pourquoi le Brésil ? Parce que c'est Robert qui m'a fait connaître la musique brésilienne.
Uh-huh.
Et je trouve que c'est une musique où il y a beaucoup d'émotions. D'abord, la musique de la langue brésilienne. C'est une musique qui voilà. La langue, déjà, ça me touche beaucoup.
D'accord.
Et après, c'est des clichés, mais si vous voulez.
Non.
J'avais une musique qui disait... les Brésiliens, pour s'activer et travailler, disaient « samba no », c'est-à-dire ne danse pas, « trabajo si ». Et au bout de 3 secondes,
«
samba no, trabajo si »,« samba no, trabajo si ». Et du coup, la musique, de toute façon, regagnait et c'était fini.
Donc, écoutez, on va vous offrir à vous et aux auditeurs de Divergence un petit peu.
A la rumba sur vamos. Llega tique 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 ai mi corazón. Ai 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 ai. Es su canto azul sensual. Con su tique 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 tique. Ya llegó el amor. Ay, 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 ay. A la rumba sur vamos. Llega chique, 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 ay, mi corazón. Ay, ay, ay.
C'est effectivement une musique qui donne quand même plus envie de danser que de travailler.
Et oui. Mais il me semble qu'on devrait encourager notre société à moins travailler, c'est-à-dire à partager le travail pour pouvoir danser. Oui, 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 oui.
Parce alors que la ça, danse. Ça serait une sacrée chance qu'on aurait.
Et oui, oui.
C'est étrange que vous disiez ça parce que le travail revient, comment dirais-je, sur la sellette. Depuis maintenant 20 ans, 25 ans, 30 ans.
35
ans. Ben, depuis que un sociologue, Christophe Dejour, a écrit sur un livre de sociologie sur le problème de la catastrophe du travail. Ouais. C'était, et il y a, j'ai affiché chez moi un petit stick qui dit à force de travailler pour gagner sa vie, on va réussir simplement à perdre à sa vie en ayant travaillé et pas vécu. Ouais. Voilà. Est-ce que vous pensez... Les gens disent oui, mais c'est stupide. Est-ce que vous pensez, vous, qu'on pourrait arriver à ça sans problème?
Mais bien sûr.
Alors comment on ferait?
Ben, on répartirait le travail. D'abord, ben oui. La répartition du travail.
Oui.
Voilà. Et parce que du coup, ce qu'on a réalisé au passage des 35 heures, c'est que de toute façon, on demandait la même charge de travail aux personnes sur 35 heures, ce qu'on leur demandait de faire en 40 heures. On n'a pas du tout réparti. Et je comprends après que les gens essaient de faire des heures supplémentaires, parce que les salaires n'ont pas, sont pas suivis. Oui, oui. Ah ben, toujours pareil.
Oui.
Il faut choisir où on met l'argent.
Oui, d'accord. Et, ouais. Et vous travaillez beaucoup?
Moi, je travaille.
Ah, excusez-moi, là.
Alors, moi, je travaille moins. Moins. Mais c'est vrai, quand je dis que je travaille à mi-temps, je travaille 30 heures. Alors, évidemment, hein, voilà. Mais c'est déjà, c'est beaucoup pour moi, enfin, beaucoup pour moi, de ne pas travailler plus.
Oui, pourtant vous, êtes, pourtant, vous êtes dans une profession où il y a certains de vos collègues qui n'ont pas honte d'accumuler leurs patients, puisque, on va dire, oui. Vous êtes médecin.
Oui, oui. Mais parce qu'il faut reconnaître qu'actuellement, on est dans une phase de transition qui va nécessiter du temps, mais les médecins comme moi, qui sont, devraient être à la retraite déjà depuis 3-4 ans, ne trouvent pas de relève. Et moi, je n'en veux absolument pas à ces jeunes qui ont fait médecine, puisque moi, je les accueille dans mon cabinet, je les forme et tout ça. Parce que ces gens-là sont déjà dans cette fameuse société où on travaillerait moins. Donc, je ne peux pas leur en vouloir. C'est-à-dire qu'ils mettent en œuvre ce que je pense qu'il faudrait que tout le monde mette en œuvre.
D'accord.
Sauf que nos gouvernants, ils n'ont pas réfléchi que ça, il faudrait multiplier par deux. Les former pour oui. Pouvoir accepter oui, tout oui. Ça.
Et
là.
Puis moi, j'ai une amie médecin qui est une amie à moi, mais surtout à ma dernière fille, et qui m'expliquait, qui me disait, mais Yves, il faut comprendre une chose, il faudrait des locaux, il faudrait des enseignants, il faudrait, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Même si un gouvernement décidait demain, on ouvre... Les vannes. Elle dit, on ne pourrait pas les former. On n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas ce qu'il faut parce que ça fait je ne sais pas combien d'années. Mais alors dites-moi, pourquoi ce numerus clausus, puisqu'il faut appeler un chat un chat? Qu'est-ce qui a décidé ça?
C'est la profession par rapport à l'élite.
Voilà, on est bien d'accord.
À mesure, on est d'accord.
Et pourquoi?
C'est la profession.
Ils avaient peur de la concurrence?
Non, c'est qu'il fallait le docteur rester sur son piédestal et tout ça.
Oui.
Donc, non. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire, imaginez partager le savoir comme ça, ne pas faire la sélection. L'élite, vraiment, c'est
ouais.
L'élite.
Oui, ouais. Ben, ouais. D'accord. Ouais. Docteur.
Et docteur. Voilà, docteur.
Alors, donc, c'est marrant parce que un temps, je m'étais dit, si je présente Marie-Thérèse Matera comme, je veux dire quoi, un médecin, une médecine. Quel est le féminin de médecin? Il n'y en a pas?
Non, il y a docteur.
C'est docteur. Une doctoresse?
Oui, mais
doctoresse,
du coup,
c'est autre chose.
Ben, on ne me dit jamais doctoresse.
Eh bien non.
Ben non. On me dit docteur, et alors je dis, je tends l'oreille pour le E.
Docteur re. D'accord.
Non, mais je l'ai pour rire.
Et qu'est-ce qui a changé sur ce terrain-là depuis que vous êtes en activité à 7?
Ah ben du coup, j'ai dit que moi, j'avais été le premier cabinet médical... féminin, c'est-à-dire qu'il y avait une fille qui était de mon âge, qui était la fille d'un médecin généraliste, ouais. Moi je n'étais pas la fille de médecin, et on était les deux, puisqu'on a fait la fac ensemble, mais on ne s'est pas installé dans des cabinets, dans le même cabinet, moi je m'étais installée avec une autre fille, que j'ai rencontré à l'internat, on était les deux premiers cabinets de médecins généralistes installés à Sète.
D'accord.
Alors ça, déjà, c'était la révolution. Enfin, quand même, Sète, milieu italien, hein, c'était quand même plutôt machiste, quoi. Hein.
Ouais, ouais.
Mais on avait été poussés, je veux dire, moi, ma compagne acupunctrice, quand on avait fait notre stage à l'hôpital de Sète, par nos chefs, qui nous avaient dit, mais vous allez faire... Waouh, on n'est pas compte, vous avez récupéré toutes les femmes qui
un
sont...
Malheur.
Pas... Un malheur, mais un bonheur. C'est pour ça que je trouve mal le mot, parce que c'est un bonheur.
Ben oui.
Toutes les femmes qui ne sont pas écoutées par les médecins, ben oui. Hommes, toutes, pour les enfants, pour la pédiatrie, la gynéco. Et en effet, voilà, on a fait un malheur.
Ah oui, voilà. C'est bien. Mais vous avez fait vos études de médecine où ?
À Montpellier.
À Montpellier, oui, pas très loin d'ici.
De ma vraie famille.
Ouais. Mais... Montpellier a toujours été réputé pour la qualité
de sa formation.
Parce que, moi, je me souviens, mon papa, à l'époque, on habitait à Arles, il avait des problèmes de blocage de vertèbre cérébrale.
Ouais.
Et il venait se faire étirer, vous savez, sur des tables d'élongation qu'on ne fait plus maintenant.
Non.
Mais il venait à Montpellier.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Bon.
Oui,
d'accord. Donc. Vous participez maintenant à votre corps défendant à la pénurie médicale qui existe aussi à Sète.
Oui, je la subis parce que enfin, moi j'étais syndiquée et je peux dire que donc, ça fait 30 ans qu'on dit que si vous voulez, l'histoire de l'offre et la demande, c'est-à-dire on diminue l'offre, la demande diminuera au moment de l'explosion du sida et du vieillissement de la population, des maladies chroniques. Donc nous on savait bien. Enfin, puis moi, la population féministe, qu'il faudrait plus de soignants pour pouvoir accueillir tout ça. Et ben non, on a continué à serrer les boulons.
C'est quand même intéressant parce que je vais vous entraîner, alors vous n'êtes pas obligé de me suivre, sur un terrain un peu politique. Le système économique capitaliste, il faut lui donner un nom, il s'appelle comme ça, d'ailleurs il le revendique, donc ce n'est pas une catastrophe, est basé sur l'idée que c'est l'offre qui crée la demande. Ce qui n'est pas vrai. On pourrait vivre dans un système où on attendrait que les gens demandent pour savoir quelle offre on leur fait. Là, on ne se demande pas ça, on fait de l'offre et on dit publicité, venez, voilà. Donc pourquoi la santé, on a fait l'inverse hein?
Ah ben je veux dire, vous savez comment on dit, c'est la rareté. Plus c'est rare,
oui bien, c'est ça. Cher. Je comprends ce que vous dites.
Sauf qu'on n'a pas réfléchi, c'est-à-dire qu'à l'époque, les toubibs qui étaient installés, qui avaient investi, quand ils accueillaient quelqu'un, ils demandaient une part de participation pour justement assurer le travail.
D'accord.
Maintenant, on mendie les remplaçants, la relève. Oui, on mendie.
Et pourquoi, par exemple, à Sète, personne n'a pensé à créer une maison de santé?
Ah, mais vous
voyez ce que je veux dire, la maison de santé, c'est attention, hein, c'est un truc.
Non, mais ça, c'est peut-être dans les mâles.
Collectif.
Dans les mâles pour la prochaine municipale. Mais autrement, il y a déjà ce qu'on appelle une maison de santé pluridisciplinaire.
C'est ça.
Dont nous faisons partie, notre petit cabinet fait partie, mais qui est en structuration. C'est-à-dire qu'on a eu notre assemblée générale, pour la première fois, il y a un mois, où on rencontre, où on fait des rencontres avec les pharmaciens, les infirmiers, les dentistes, tout ça. Et pour essayer de s'entraider le temps que l'offre de soins... Voilà.
Parce que je me suis renseigné là-dessus, là où j'habitais avant, parce qu'il y avait une pénurie pareille, et il y a des gens qui ont dit, on va faire une maison de santé. J'ai découvert qu'il y avait un mouvement, et que c'était des cabinets pluridisciplinaires, avec des infirmières, une secrétaire, que les médecins étaient salariés. Enfin, un système totalement différent de celui qu'on connaît.
D'accord, mais... Sauf que ces centres de santé fonctionnent avec des horaires, si vous voulez, de salariés. C'est-à-dire de 8h à midi.
C'est ça.
Et figurez-vous que les gens, ils sont bêtes. Ils arrivent à tomber malades avant 8h, entre midi et 14h, et le soir après 17h30. Donc ça, c'est une solution pour montrer quoi, qu'on va y arriver.
D'accord.
Non. Ce qu'il faut développer, c'est les centres de santé solidaires, où les patients viennent dans le centre à Échirolle, par exemple, à côté de Grenoble.
Oui.
Ah ben ça, je peux vous dire que c'est fantastique.
D'accord.
Parce que du coup, les patients participent à l'organisation de la santé et de l'accueil.
Mais ça, moi, je me souviens, quand j'étais gamin, j'avais 9-10 ans à Arles.
Ouais.
Mon papa avait des problèmes de système, je croyais cardiaque, alors qu'il n'était pas du tout cardiaque.
Ouais.
Mais j'ai vu arriver son médecin, au milieu de la nuit, en pyjama, avec un manteau et ses pantoufles. C'est plus possible aujourd'hui, ça.
Non, c'est plus possible. Mais en même temps... Il faut bien que les médecins ils se reposent.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Oui, mais donc, il peut y avoir un médecin de garde.
Ah, mais ça, c'est un médecin de garde quand même. On a assuré la maison médicale de Gara jusqu'à 24 heures.
D'accord.
Oui.
Et au contraire de ça, on a un maire qui possède, si j'ai bien compris, une polyclinique.
Oui, pas lui tout seul, on va dire. Bon. Et le principal actionnaire.
Il est médecin, lui, non?
Gynécologue, il a mis 10 000 naissances depuis qu'il est là. 10 000, c'est toi qui vas voter pour lui. Maintenant.
Mais il paraît que ce n'est pas lui qui disait qu'il a accouché les dames.
C'était des sages-femmes. Dans tous les cas, à son discours de vœux, c'est lui.
D'accord. Voilà. D'accord. Bon, alors dites-moi, on a fait un peu le tour 7 aujourd'hui. Est placé devant quoi pour son avenir, vous?
L'avenir,
qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que l'avenir nous appartient toujours. Donc,
oui,
voilà.
Je suis d'accord.
Voilà.
Donc, si ça, on décide.
Ah ben, si on décide de se l'approprier et pas de le laisser, voilà, oui, aux autres, oui.
Oui, alors, 7, l'avenir de 7.
L'avenir de 7, c'est s'appuyer sur les associations, les ferments, qui résistent quand même un peu à cette vague... À cette vague affairiste, communiste.
Oui, mais d'un autre côté, oui, alors apparemment, monsieur le maire, moi, je ne prendrai pas parti parce que je ne le connais pas. Et puis, voilà. Mais
moi, je le connais.
J'ai quand même entendu dire que, ne serait-ce que publiquement, qu'il avait des ennuis avec la justice. Je sais que quand quelqu'un a des ennuis avec la justice, paraît-il, tant qu'il n'est pas condamné, il est considéré comme innocent. Mais
et
quand...
même s'il est condamné, il peut y revenir.
Voilà,
il a fini sa peine.
C'est ça. Mais là, j'allais dire, monsieur Comen est quand même devant la Cour de cassation, ce qui est le degré ultime des recours qu'on peut avoir sur cette affaire-là. Donc, laissons monsieur Comen de côté. Mais ce qui se dit un peu à cette, hein, c'est on sent une ville qui a envie de s'ébrouer.
Oui. Peut-être que nous sentons les prémices de rassemblement, de métissage, de tissage.
D'accord.
De ces différents courants.
D'accord.
Qui pourraient peut-être ouvrir une voie,
d'accord,
alternative.
Parce que vous avez, je pense que c'est ce que vous disiez sur le changement de la population est vrai, mais les gens qui ont des résidences secondaires ou je ne sais pas quoi ne sont pas là en permanence. Ce n'est pas sûr qu'ils votent ici. D'accord. Donc, la vieille ville, le cœur de ville de Sète, qui est malheureusement massacré par un parking. Moi, je ne sais pas
s'il
si y avait besoin d'un parking, mais c'est quand même étrange que cette place qui était très belle, très mignonne, soit transformée quasiment en future piscine. Enfin, je veux dire, je ne prends pas parti, mais il suffit d'avoir des yeux pour voir. Qu'est-ce qu'il leur a pris aux édiles municipaux?
Eh bien, moi, je dirais que c'est des has-beens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas rendus compte de l'évolution nécessaire au changement climatique. C'est-à-dire que la bagnole, c'est une voie qui est barrée là maintenant, donc il faut imaginer autre chose.
Ben oui.
Et imaginer faire entrer la bagnole dans cette petite ville qui est le long des canaux, donc je veux dire, où tout le monde passe par le même endroit. Oui, mais c'est, ça fait, je sais pas, c'est comme l'histoire de l'offre, la santé, l'offre et la demande.
Ouais.
On se demande par quel bout ils le prennent, quoi, je sais pas quoi.
Ouais.
Je sais pas.
Alors, on va revenir pour finir, puisqu'on est presque à la fin de notre entretien. Quand vous êtes triste, vous allez où à cette...
Franchement, j'aime bien aller au bout du môle. Voilà.
Le môle, c'est le...
Le môle Saint-Louis.
C'est le truc qui barre l'entrée du port.
Voilà. Qui est derrière... j'ai oublié...
Là où il y a le phare.
Oui, il y a le phare, mais du coup, c'est ça. Il y a l'autre digue, quand même, qui arrête les grandes vagues en amont, où il y avait la prison et tout ça.
D'accord.
Bon. Le brise-lame. Il y a déjà le brise-lame, et après, c'est ça. Voilà, le môle.
Et alors, ça vous regaillardit?
Ah, mais franchement, je vois la mer, mais là je suis beaucoup plus proche, je me sens proche. Le môle, ça m'ouvre de nouveau l'horizon. Oui.
Ah non, Jerry, vous étiez au bord de la mer?
Eh oui, Colo, c'était. Ah. Ça, je décrivais, c'est un petit village au bord de la mer, mais avec une montagne. C'est Diachour, c'est pas seulement une colline qui fait 180 mètres.
C'était une vraie montagne, oui.
Une vraie montagne où il y avait la neige, donc on avait. Oui, c'est ça. Mm-hmm.
D'accord. Et alors, et quand vous êtes heureuse, vous allez où?
Alors, quand je suis triste, je vais au bout du môle. Et quand je suis heureuse, eh ben, je vais me baigner.
Et vous allez vous baigner où?
Je vais me baigner.
Parce que les plages, ce n'est pas les mêmes les unes les autres.
Non, mais hein. Moi, je vais me baigner à la petite plage du môle.
Ah ben oui, ah je ben. Vois. Celle qui est juste dans le coin. Voilà, là, maintenant, où il y a le restaurant au-dessus, voilà. le truc. Exactement. D'accord, d'accord, ouais. Vous L'eau. Allez là. Ouais. Voilà, bon. Alors, dites-moi, Marie-Thérèse, avant que je vais vous laisser le mot de la fin, qu'est-ce que vous souhaitez à cette pour les temps qui viennent?
Un bel élan de rassemblement. Des forces de gauche et écologistes. Voilà, je vais dire ça.
Voilà. Mmh. Pour qu'on change la donne.
Oui, pour changer la donne. Pour attraper l'avenir, pas faire que le voir attraper.
Eh bien, écoutez, on verra bien.
Oui.
Hein? Je suis assez d'accord avec vous pour dire que finalement, il n'y a que ceux qui entreprennent qui obtiennent.
Voilà.
Marie-Thérèse, merci beaucoup de ce moment passé ensemble et je vous souhaite le meilleur pour la suite. La prochaine Merci. Émission, j'aurai un invité qui, pour l'instant, est au fond du lit malade, donc qui n'a pas pu enregistrer aujourd'hui. Mais j'espère qu'il, comment dirais-je, terrassera la mauvaise grippe qu'il a. Chers auditeurs de Divergence, nous vous disons, Marie-Thérèse et moi, au revoir et merci de votre écoute.
Cette est une sorte d'île située entre la mer et les tantos.
La commune, qui était une commune portuaire, ouvrière, a pris des couleurs absolument magnifiques.
Parce qu'ici, il n'y a pas que Brassens qui chante. Tous les Sétois chantent.
Et non seulement vous découvrez les œuvres, mais vous découvrez la ville avec son histoire, avec ses quartiers, avec ses habitants.
Témoignage d'un certain art de vivre.
Des amitiés solides, des amitiés fortes.
C'est vraiment un endroit où il faut aller.
Racontez-nous votre set.
On y va?
Allez,
on y va.